suis le père Luc Pialou et nous allons embarquer ensemble pour un beau parcours biblique avec Abraham. Ce parcours s'intitule « La puissance de la foi ». Être saint, c'est possible, à l'école d'Abraham. Donc dans cette première rencontre, je vais d'abord rapidement me présenter, puis présenter un peu les objectifs de ce parcours, sa raison d'être, et ensuite nous démarrerons ensemble par la lecture d'un premier texte qui nous mettra dans les bonnes dispositions pour cheminer avec Dieu. Le titre de ce premier enseignement s'intitulera « Il y a plus ». Mais avant de démarrer, quelques mots sur moi. Donc, je suis prêtre, membre de la communauté de l'Emmanuel, du diocèse de Rennes, et j'ai fait des études bibliques donc, qui m'ont profondément marqué. J'ai découvert combien la Bible est un lieu qui peut nous permettre de grandir et surtout combien la Bible est un lieu réaliste qui nous permet de vivre la foi de manière réaliste. Et l'autre aspect qui est marquant pour moi dans ce parcours, c'est que j'ai été curé pendant 9 années et de cette expérience, eh bien, j'ai beaucoup appris aussi sur le cheminement long, patient qu'il faut pour vivre avec Dieu. Alors, tout d'abord, démarrons tout de suite par la présentation de ce parcours, par son objectif. En fait, ce parcours est destiné à nous aider à accomplir ce qui est inscrit profondément dans notre cœur, ce désir de plus, ce désir qu'on va appeler le désir de la sainteté, voilà, qui résonne comme un appel en nous, en chacun de nous, et qui souvent est un peu déçu par la vie ou qui n'est pas immédiatement atteignable. Ce parcours est vraiment destiné à nous aider à répondre et à croire qu'être saint, c'est possible. Dans la lettre qu'il a écrite pour le début du 3e millénaire, Jean-Paul II dit « Lorsqu'on dit à quelqu'un « Veux-tu être baptisé ?» c'est exactement la même question que si on lui disait « Veux-tu être saint ?» En fait, nous sommes tous appelés à être saints. C'est la vocation normale, j'allais dire banale, ordinaire du chrétien. Et pourtant, on voit bien que cet appel à la sainteté nous semble très souvent quelque chose d'inaccessible. Il y a 2 raisons à cela. À la première raison, c'est l'idée fausse que nous nous faisons de la sainteté et de Dieu. Et puis la 2e raison, c'est très souvent le manque de réalisme. Et ça tombe bien. En fait, nous allons regarder dans ce topo comment Abraham a fini par être saint. Et la Bible nous dit 2 choses. La Bible nous dit qui est Dieu et qui est l'homme. Et donc, elle répond à nos fausses images de Dieu, nos fausses images sur la sainteté. Et puis, elle répond aussi très souvent à nos illusions, à nos irréalismes sur l'homme, car elle nous enseigne qui nous sommes vraiment et qui est Dieu et comment, eh bien, il va nous sauver et nous permettre de réaliser cet appel profond en nous. Il y a plus, je peux être beaucoup plus que ce que je pense pouvoir être aujourd'hui. Ce désir de bonté, de sainteté, de don de moi-même qui habite en moi, c'est possible. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Abraham ? Pour 2 raisons. Tout d'abord, Abraham, dans la Bible, c'est le premier croyant. En fait, c'est avec lui que Dieu va démarrer. C'est avec lui que Dieu va recréer, va commencer à recréer ce que le péché a détruit. En fait, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés profondément bons. Et le péché a détruit en nous l'image que nous avons de Dieu. En fait, c'est la tentation du serpent qui dit « Ah, Dieu vous a dit cela, mais en fait, il n'est pas vraiment bon. » Et chacun de nous, nous sommes marqués par une image de Dieu qui est entachée d'une suspicion, celle qu'a inoculée en nous, dans la Genèse, le serpent, dans son dialogue avec Adam et Ève. Et il en résulte alors un manque de confiance en Dieu, un manque de confiance dans les autres, un manque de confiance aussi en nous-mêmes. Ça, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous expérimentons chaque jour en étant marqués par ce qu'on appelle le péché originel. Eh bien, avec Abraham, Dieu va commencer à entrer dans l'histoire pour venir recréer en nous la véritable image de Dieu, pour venir restaurer en nous la confiance et pour aller rechercher au fond de notre cœur cette bonté qui est inscrite et qui n'attend qu'une chose, qui est de s'accomplir, qui est de se réaliser. Et Dieu a commencé avec Abraham, qui est le père des croyants, le premier croyant. Et en fait, je vous la fais un petit peu courte, mais le peuple d'Israël a écrit l'histoire d'Abraham très tardivement, plus de 1000 ans après Monsieur Abraham. Et lorsque le peuple d'Israël a écrit la Bible, ça faisait 1000 ans que Abraham était mort, au moins, et il a bien sûr raconté l'histoire d'Abraham en ouverture de la Bible, mais il l'a raconté cette histoire en y mettant toute l'expérience acquise pendant ce millénaire où le peuple d'Israël a progressivement appris à marcher avec Dieu, a appris à connaître Dieu. Et donc, dans l'histoire d'Abraham, en fait, il y a le résumé, on pourrait dire, de tout l'Ancien Testament, en quelques chapitres. Donc, si on veut aller vite, eh bien, c'est très bon de choisir Abraham comme porte d'entrée dans la Bible, puisque l'Ancien Testament, en fait, c'est ce chemin que Dieu fait pour nous permettre d'accueillir le salut, d'accueillir Jésus, d'accueillir notre vocation, notre appel à la sainteté. Et Abraham est particulièrement aidant pour nous mettre dans cette bonne disposition. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi Abraham, c'est que vous allez le voir dans ce parcours, Abraham est ce qu'on pourrait appeler un tocard. Voilà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tocard, vous connaissez cette expression un petit peu négative, hein, qui est quelqu'un qui est un peu un loser. La définition du mot tocard dans le dictionnaire, c'est un cheval de course qui semble n'avoir aucune chance de gagner. En fait, Abraham est un peu comme nous, c'est-à-dire que c'est un cheval de course, c'est quelqu'un qui est fait pour gagner et pourtant, en même temps, a priori, quand on regarde sa vie, ça semble mal embarqué. On va le voir dans tout ce parcours et c'est très consolant et très aidant parce que chacun de nous, on fait cette expérience qu'on voudrait vraiment gagner, on voudrait vraiment réussir et en même temps, on a l'impression qu'on n'est pas forcément très bien embarqué et qu'il y a beaucoup d'obstacles qui font que voilà, on a l'impression qu'on ne va pas réussir. Et donc Abraham est particulièrement aidant pour cela parce qu'il est comme nous et parce que Dieu va le faire cheminer jusqu'à la sainteté. Alors on va commencer aujourd'hui par un premier texte, hein, les tout débuts de l'histoire d'Abraham que je vais vous lire et qui va nous permettre de nous mettre en situation et en condition pour commencer ce parcours. Et le titre hein, de cette première étape, c'est aspirer à plus, hein, c'est il y a plus, il y a plus. Alors, ça se passe dans le chapitre 11 de la Genèse, à partir du chapitre 27, voilà, que je vais vous lire. Je ne lirai pas forcément à chaque fois tous les textes, mais celui-ci, je vais vous le lire. Voici la descendance de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de son père Terah, dans son pays natal, Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarah et la femme de Nahor s'appelait Milca, fille de Haran, qui était le père de Milca et de Iska. Or, Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme d'Abraham. Il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Voilà, vous pourrez relire ce texte. Je note deux choses importantes dans ce texte. C'est, on nous dit que, en fait, Terah, le père d'Abraham, est déjà parti d'un pays qui s'appelle Ur des Chaldéens pour aller vers le pays de Canaan. Et au chapitre 12 de la Genèse, on va nous dire que Dieu appelle Abraham et va lui dire « quitte ton pays ». Ce qui est marquant, c'est qu'en fait, quand Dieu dit à Abraham « quitte ton pays », si on lit un petit peu avant ce que je viens de lire, on se rend compte qu'en fait, Abraham est déjà parti. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Abraham, en fait, Abraham est déjà parti. La tradition juive s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu appelle quelqu'un à partir alors que cette personne est déjà partie ? Il est déjà parti avec son père. Et la tradition juive
a répondu par une petite histoire que je vais vous raconter et en disant que, en fait, Dieu ne peut appeler quelqu'un qu'une personne qui aspire déjà à plus et qui n'est pas satisfait de ce qui se passe dans sa vie et qui est d'une certaine manière déjà partie, même si elle ne sait pas trop vers où. Alors, cette petite histoire, la voici. La tradition juive raconte que le père d'Abraham était en fait un marchand d'idoles. Voilà, il avait un magasin d'idoles. C'est une histoire que les Juifs racontent le soir de Pâques, que les parents racontent à leurs enfants pendant le repas familial du Seder, le soir de Pâques. Et donc, ils racontent si, en fait, le père d'Abraham, Terah, était marchand d'idoles, il avait un magasin d'idoles. Et voilà, un jour, le père d'Abraham s'en va au marché, et Abraham en profite pour casser toutes les idoles, sauf celle qui était la plus robuste et qui avait un bâton à la main. Le père d'Abraham revient du marché, il voit tout le magasin qui est détruit, et il dit à Abraham, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout est détruit? Et Abraham lui répond, en fait, il y a une dame qui est venue, elle voulait acheter une idole, et en fait, les idoles se sont battues entre elles pour être achetées par cette dame, et c'est le plus fort qui a gagné, il a cassé les autres idoles. Et le père d'Abraham dit à Abraham, mais arrête, tu sais très bien qu'une idole, ça ne bouge pas, ça ne peut rien faire. Et alors Abraham lui dit, bah alors pourquoi est-ce que tu vends des idoles si en fait tu sais très bien que ça ne sert à rien, qu'elles ne font rien, etc. En fait, cette histoire nous dit que Abraham est quelqu'un qui refuse de s'installer dans des fausses vérités ou dans des choses qu'il sait être fausses, voilà, et ça ne le satisfait pas. Et c'est la première condition pour pouvoir commencer un itinéraire de foi, c'est à un moment se dire, je refuse de m'installer ou de continuer à faire comme si ça c'était un peu vrai, alors que je sais pertinemment que c'est pas vrai, je sais pertinemment que ça ne donne pas la vie. Enfin, et donc on dit qu'Abraham est quelqu'un qui était iconoclaste, c'est-à-dire qui a osé briser les choses qu'il savait être fausses, qui ne donnent pas la vie, qui ne sont pas satisfaisantes, quitte à prendre un risque de ne pas savoir vers où aller, mais en tout cas, il a voulu sortir de ça. Avant que Dieu l'appelle, il était déjà parti. Et puis le deuxième point qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on nous dit que la famille d'Abraham part suite à la mort du frère d'Abraham, qui s'appelle Haran. Ce frère est mort à Haran Calné, et donc ils partent sans doute pour fuir la mort, pour fuir ce qui ne donne pas la vie. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ils partent pour le pays de Canaan, qui sera le pays que Dieu donnera un jour à Abraham, mais en fait, ils arrivent non pas dans ce pays, mais ils arrivent dans une ville qui s'appelle Haran. Au verset 31, il les fit sortir d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan, mais arrivés à Haran, ils s'y établirent. C'est-à-dire que, en fait, ils vont s'établir et s'arrêter dans une ville qui porte le même nom que ce frère qui est mort et il fuit cette mort. Voyez, mais en fait, ils n'arrivent pas par eux-mêmes, à sortir véritablement de cette mort, puisque la ville dans laquelle ils vont se retrouver porte le même nom que le frère mort, et ils cherchaient à fuir en fait cette mort. Et donc c'est la deuxième chose qui me semble importante pour être en disposition, c'est bien sûr, nous souhaitons partir, nous souhaitons sortir des fausses certitudes, et en même temps par nous-mêmes nous ne pouvons pas le faire, Nous souhaitons sortir de ce qui ne donne pas la vie, mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. En fait, la vie va venir d'en haut. Elle ne vient pas de nous-mêmes. Et ce premier texte manifeste cette importance qu'il y a de décider de ne pas se satisfaire des demi-vérités. Et en même temps, ce premier texte manifeste que par nous-mêmes, ça va être compliqué, que la vie, en fait, ne peut venir que d'en haut. Alors je vous invite peut-être maintenant en reprenant ce premier texte, à vous poser quelques questions ou à faire quelques exercices que vous pouvez vivre tout seul ou peut-être en petit groupe ou en fraternité si vous suivez ce parcours à plusieurs. Je vais vous les poser et elles seront disponibles aussi dans un document qui accompagne ce parcours. La première question que vous pouvez vous poser est la suivante. Quelles sont les fausses vérités ou les médiocrités auxquelles je me suis accoutumé et avec lesquelles je me suis satisfait alors que je sais très bien qu'elles sont fausses? Et ça peut être un mensonge, un péché habituel, une mondanité, une relation où il n'y a pas de pardon, où il y a de la haine, un enfermement sur ma vérité, des fausses sécurités, de la superficialité. Quelles sont les fausses vérités ou les médiocrités auxquelles je me suis accoutumé et avec lesquelles je me suis satisfait alors que je sais très bien qu'elles sont fausses. Donc prendre le temps de les écrire. Deuxième question, quelles sont mes insatisfactions profondes? Avec quoi je comble ma vie de manière futile et illusoire? Quelles sont mes insatisfactions profondes? Avec quoi je comble ma vie de manière futile et illusoire? Et puis troisième question, quels sont mes lieux de mort desquels je n'arrive pas à sortir par moi-même? Ce sont des questions assez intimes, je vous invite à acheter un carnet ou avoir un carnet, à répondre à ces questions. Après, si vous êtes en groupe de partage, vous verrez qu'est-ce que vous pouvez partager aux autres, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas partager, que vous garderez pour vous-même. Mais vraiment faire cet effort de vérité pour décider, comme Abraham, à un moment que ça suffit. Voilà. Je ne vais pas continuer ma vie sur des fausses vérités, sur des petites choses médiocres qui me satisfont. Voilà. Je prends le risque de me dire, il y a plus, et je vais me lancer. Voilà, à très vite.